12h31, on vous accompagne jusqu'à 14h. Mon nom, c'est Marceau. Son nom à elle, c'est Raël.
Arrête!
Oui. J'ai pris la coupe de cheveux à Raël. Allez voir la coupe de cheveux de Raël. C'est exactement ce que Pascal a sur la tête présentement.
Le pire, c'est que la misère à m'a posé. C'est quand même vrai.
Tu sais que c'est passé, tes cheveux sales, quoi?
Mais non, j'ai juste fait une petite toque. C'est juste que j'ai pas énormément épais de cheveux.
Ouais.
Fait que ça fait une petite toque.
C'est ça que ça donne.
Ça donne une petite toque. C'est pour mieux vous espionner, mon cher.
Le bel Italien que t'as rencontré là-bas, il te trouverait bizarre.
Hey, il m'aimerait comme je suis,
c'est moins,
sous tous mes angles.
C'est moins 5 degrés sur Québec, c'est de la pluie ou de la neige, tout dépendant où vous êtes. Brune verglaçante aussi au travers de ça, maximum de moins 2. Mercredi, ce sera de la pluie, hauteur prévue entre 15 et 25 mm, maximum de 7 degrés. Jeudi, dans la nuit de mercredi à jeudi, il va pleuvoir pas pire, là, c'est ce qu'on nous mentionne. Jeudi, la pluie continue, ce sera venteux avec un maximum de moins 1. Et vendredi, ce sera le retour du soleil avec un maximum de moins 6 degrés. All right, je rappelle la belle victoire du Canadien 3-2 hier face aux Ducks d'Anaheim. Pat Laine qui a marqué en temps régulier. Il a amassé une passe aussi sur un but de Kirby Dach et il a donné la victoire en tir de barrage. Fait que ça a été un bon match pour Patrick Laine. On va-tu le faire, le mix, ou faire les séries? On l'espère. Prochain match est jeudi, les Pingouins qui sont en ville. Puis sinon, un match où Pascal était très attentive. Elle regardait Joe Burrow avec ses Bengals de Cincinnati affronter les Cowboys de Dallas. Et les Bengals l'ont emporté.
Oh, merci, Joe, d'amener un petit peu de soleil dans nos journées.
Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, salut!
Bon midi, tout le monde, ça va bien?
Oui, pensais-tu faire de la radio avec Raël à midi?
Il voit pas.
Le fait, c'est que je t'ai entendu, puis la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé voir ta page Facebook, puis je me suis dit que tu devais avoir publié quelque chose de ce type-là, et c'est effectivement la première chose.
Pardon!
Donc, je suis content de faire de la radio avec Yannick et Raël aujourd'hui.
C'est comme... Arrête, t'en marques pas dans ces niaiseries.
Non, mais c'est de ça que ça a de l'air.
C'est vrai, le pire.
Ouais. Hey, le déficit du Canada, il va être de quoi cette année? Est-ce qu'on a un chiffre annoncé? J'ai entendu 60 milliards. Raconte, dis-moi que c'est pas vrai.
Ben, honnêtement, j'espère que c'est pas vrai, mais il y a effectivement des rumeurs sur la colline parlementaire à Ottawa qui laissent entendre que le déficit pour l'année 2024-2025 va être beaucoup plus important que prévu. Pour ceux qui s'en rappellent pas, ben, petit rappel pour l'année 2024. En avril, le gouvernement fédéral a présenté son budget. Chrystia Freeland, la ministre des Finances, nous avait dit que le déficit serait encore une fois de 40 milliards, comme c'était le cas l'année dernière. Et donc là, à ce moment-là, on s'attendait peut-être à voir le déficit peut-être se réduire d'ici la prochaine année, ou sinon de voir peut-être un plan d'action de la part du gouvernement pour réduire les dépenses. Or, il n'y a rien de ça qui est arrivé. En octobre dernier, il y a eu un rapport du directeur parlementaire du budget qui disait, lui, de son côté, que les projections nous amènent plutôt à 46 milliards. Donc, c'est quand même déjà plus élevé. Et ce, malgré, entre autres, l'augmentation de l'impôt sur le gain en capital, qu'on se souvient, avait été augmenté essentiellement pour venir à bout des déficits. Et finalement, ben, ça n'a pas donné fruit. Et comme on le sait, ben, il y a tout récemment au Québec, on a eu une mise à jour économique pour la province. Et au fédéral, on a le même exercice qui est fait. Plusieurs points qui sont assez intéressants pour ce fameux exercice-là. Le premier, c'est qu'ils font ça lundi prochain, ce qui est assez particulier parce que le lendemain, ils vont déposer les comptes publics et après ça, ben, ils ferment le Parlement pour la session. Donc, ils déposent la mise à jour économique puis on va devoir l'avaler, peu importe ce qu'il y a dedans. L'autre chose aussi, c'est qu'effectivement, comme je disais, que le déficit, il était supposé de 40 milliards puis après ça, on le projetait à 46. Et là, les rumeurs sont de plus en plus sévères, sérieuses à ce niveau-là. Plusieurs staffers, plusieurs commentateurs politiques laissent entendre que ça pourrait plutôt être 62 milliards de déficit pour l'année en cours. Donc, 22 milliards de plus que ce qui était prévu. C'est 50 % plus élevé, carrément. Et ça arrive alors, malgré tout, qu'on ait augmenté les revenus du gouvernement avec les nouvelles taxes, taxes sur les services numériques, la taxe sur le carbone qui a augmenté, ou sinon l'impôt sur le gain en capital. Malgré ça, on a réussi à augmenter beaucoup plus les dépenses. D'ailleurs, le petit cadeau du temps des fêtes qu'on nous annonçait il n'y a pas si longtemps avec le gel de la TPS et les chèques de 250 $, veut pas, ça vient jouer sur les revenus et les dépenses du gouvernement. Oui, on devrait s'attendre à une très mauvaise surprise, ce qui n'est pas très intéressant non plus, considérant qu'on sait que le gouvernement, il n'y a pas de plan pour le retour à l'équilibre budgétaire avant peut-être 2040 si on se base sur les projections actuelles.
Ce qui est hallucinant, tu sais, puis je ne sais pas si tu as lu les articles de la presse là, concernant la décision qui aurait été prise par le bureau de Justin Trudeau. Chrystia Freeland n'avait même pas été avertie de ce fameux 250$-là à donner aux Canadiens. Elle n'avait pas été avertie de ce fameux break de TPS-là. Je veux dire, elle voit là, que le déficit va être encore un des déficits les plus élevés de l'histoire. Puis t'as l'autre qui la consulte même pas.
Effectivement, puis c'est une situation qui était identique avec le prédécesseur de Mme Freeland, qui était Bill Morneau, qu'on se souvient, qui était un banquier de Toronto. Ben lui, il a fini par quitter en fait la formation politique, littéralement. Je pense que c'était en 2021, là, tout au plus. Puis il a quitté parce qu'il voyait bien que le gouvernement, ou du moins que Justin Trudeau, refusait de montrer un peu de, comment dire, d'un peu plus de rigueur au niveau des dépenses, puis peut-être faire plus attention à plusieurs de ces nouveaux programmes qu'il créait à tout bout de champ. Puis effectivement, c'est ce qui a fait en sorte que Bill Morneau est parti. Et pourtant, lui-même, quand il était ministre des Finances en 2015 et 2021, on a quand même sorti la planche à billets, puis on n'a pas arrêté. Mais avec Chrystia Freeland, même elle, qui a quand même beaucoup moins d'hésitation à dépenser, elle est en train de se poser des questions, elle regarde les chiffres, elle dit, est-ce qu'on a vraiment les moyens de donner des chèques à tout le monde qui ont fait moins de 150 000 $ l'année dernière? Ça fait aucun sens. Elle-même, elle l'a réalisé, puis elle n'a pas le choix de devoir dealer avec les cartes qui lui sont fournies à la fin de la journée. C'est le premier ministre qui tranche. Et il faut rappeler aussi que les fameux chèques, c'est pas encore définitif pour l'instant. Parce que le gel de la TPS sur quelques produits pour le temps des fêtes, ça a déjà été passé à un vote la semaine dernière. Mais la question des chèques, ça, on ne le sait pas encore. Il va y avoir un débat au niveau au retour de la session parlementaire après le temps des fêtes. Et on va voir si en avril, il y aura des chèques de 250$ qui sont distribués. Honnêtement, je pense pas que ce soit la meilleure approche. Une baisse de taxes et surtout une baisse de dépenses serait beaucoup plus intelligent. Mais dans ce cas-ci, on y va avec la distribution de chèques et avec un paquet d'autres cadeaux juste à temps pour les élections.
Mais c'est hallucinant de voir que le bras droit ne sait pas ce que le bras gauche va faire, puis qu'on nous arrive comme... Tu sais, là, actuellement, là, le gouvernement de Justin Trudeau est minoritaire, puis est backé par le NPD. Là, pour ce qui est des chèques pour les personnes âgées et tout ça, on voulait inclure les personnes âgées là-dedans. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi on les avait pas inclus au départ, là. Mais on avait le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, qui tenait mordicus à ça. T'as-tu l'impression qu'ils vont, je sais pas moi, ils vont faire une coalition NPD avec le Bloc pour faire passer ça? En fait, ils n'ont pas besoin des deux, mais juste de un pour leur faire passer après le temps des fêtes, ou on va se servir de ça pour faire tomber Justin Trudeau?
Ben, c'est une très bonne question. Puis, de toute manière, pour l'instant, on a vu un nombre incroyable d'opportunités à être se pointer, là, ne serait-ce que pour tenir des votes sur la censure du gouvernement, ne serait-ce qu'une motion de censure ou qu'on renverse le gouvernement. Puis à chaque fois, ça n'a pas été de l'avant pour plusieurs raisons, soit parce que le Bloc a décidé de ne pas embarquer, ou sinon le NPD. À chaque fois, c'est un ou l'autre qui va pas mal jouer avec les cartes. Le NPD, c'est pas mal le parti politique qui semble plus tirer son épingle du jeu pour l'instant, dans la mesure où est-ce que c'est celui qui veut le moins aller en élection avec le Parti libéral. Donc, s'il y a une coalition qui se forme, ça va possiblement être plus de leur côté. Donc, c'est ça. C'est à savoir, est-ce qu'on va faire plus plaisir aux gens de l'Ouest ou aux gens de l'Est? En tout cas, c'est toute une game dans laquelle se retrouve Justin Trudeau présentement. Mais c'est sûr qu'il est dans une bonne position, du moins, pour étirer la sauce jusqu'au mois de juin l'année prochaine. Et après ça, on va tomber dans un nouveau cycle électoral. Donc, on a encore pour quelques mois encore, mais c'est vrai qu'au niveau des dépenses, on a hâte de voir la suite, parce que là, on a une mise à jour économique qui s'en vient qui ne va pas être très rassurante. Déjà, autant pour nous, pour les contribuables, que pour les banquiers qui regardent, la cote de crédit du gouvernement canadien, puis qui se dit, finalement, c'est-tu des finances publiques qui sont, fiables, qui sont bien gérées? Si c'est pas le cas, ils vont peut-être éventuellement réviser notre cote à la baisse, et ça va affecter tout le reste des finances publiques. Bref, il y a ça, puis il y a aussi un autre budget qui s'en vient en avril. Donc, on sait aussi qu'un gouvernement, en année électorale, ça se met rarement à réduire les dépenses ou à faire des coupures, ou plutôt ça va distribuer des nouveaux cadeaux à tout le monde pour essayer de se faire réélire. Donc, est-ce qu'on va voir un gouvernement Trudeau faire preuve de rigueur budgétaire? J'en doute fortement. Donc, c'est pour ça qu'il y a des bonnes chances que la coalition se maintienne au pouvoir pour encore longtemps.
Ah, puis pour ce qui est de Post-Canada, tu sais, il y a des gens qui ont évoqué le fait que Justin Trudeau pourrait peut-être mettre une loi spéciale pour que les employés de Post-Canada retournent au boulot, mais ça ne sera jamais accepté par la NPD.
Non, effectivement, c'est assez particulier. Je veux dire, on s'entend en ce moment, le NPD, c'est littéralement le gouvernement de Justin Trudeau, là, littéralement par le coup, puis ils empêchent carrément de bouger dans n'importe quelle direction. Le gouvernement de Trudeau, présentement, ils n'ont pas le choix. Ils se maintiennent au pouvoir à partir du fait que, oui, ils ont une certaine légitimité démocratique. Ils ont été élus pour 4 ans. Ils ont l'appui du NPD, mais tout ce qu'ils ont à faire présentement, c'est de faire des nouvelles annonces et tirer la sauce jusqu'en octobre prochain. Une affaire qui est assez intéressante, par contre, c'est qu'il y a un fameux projet de loi à Ottawa qui était débattu jusqu'à tout récemment pour repousser les élections fédérales d'une semaine pour permettre à certains députés, entre autres, d'avoir droit à une pension parce qu'ils n'auraient pas droit si les élections auraient lieu le 21 octobre prochain. Et parti comme c'est, pour l'instant, il semblerait que tous les députés sur le comité veulent voter contre. Donc, il y a quand même une bonne nouvelle. Pour l'instant, on devrait être sûr et certain de ne pas repousser les élections de plus d'une semaine et d'éviter de donner des pensions à des politiciens qui ne méritent pas. Mais pour le reste, on va devoir attendre le 21 octobre. Du moins, ça, c'est ma prédiction pour 2025. On n'ira pas aux urnes avant le 21 octobre, sans faute.
T'as-tu vu ça passer? J'en parlais avec Denis tantôt et Pascal. La subvention qui est octroyée aux Kings de Los Angeles pour leur passage à Québec. Gestev qui était à l'aventure, donc Québécois. Ça a été un événement à Québec qui a connu énormément de succès. Presque 40 000 personnes dans la cabane. Ils n'ont pas fait de deal sur les billets. C'était bien plein à craquer. Ils ont vendu de la bière. Ils ont vendu de la restauration. Ils ont vendu de la merch pour les clubs de la Ligue nationale. Puis on rajoute 5,6 millions là-dessus. C'est, sérieusement, je les aime beaucoup, là, Gestev. Ils sont bien gentils, mais à quoi sert la subvention si ce n'est qu'enrichir plus ces millionnaires-là?
Ben, t'as posé la question, puis tu y as répondu en même temps. Je pense pas que ça sert à quoi que ce soit. Puis je pense que l'événement aurait pu être un succès aussi sans cette subvention de 5,5 millions de dollars. Comme la plupart des événements sportifs dans le monde sont généralement des succès sans qu'il y ait de l'argent des contribuables qui soient investis là-dedans ou qui, devrais-je dire, qui est gaspillé là-dedans. C'est peut-être ça qui était le plus dérangeant parce qu'on laisse croire que cet événement-là était seulement possible grâce à la subvention. Et si c'est un succès, c'est grâce à la subvention. Alors qu'en général, t'as nullement besoin de l'argent des contribuables pour que ce soit pour construire un stade ou que ce soit pour tenir un événement, que ce soit ces matchs de hockey-là qui ont eu lieu, que ceux qui s'en viennent, il y a aussi des matchs de la Confédération qui s'en viennent ce printemps, si je ne me trompe pas, et le gouvernement du Québec a mis pas loin de 400 000 $ là-dedans, encore une fois, dans le but de mousser l'événement puis de s'assurer son succès. Mais à chaque fois, c'est de penser que les subventions mènent au succès d'un événement, alors que l'événement aurait pu avoir lieu bien sans aucun investissement de l'argent des contribuables. Le privé est pas mal dominant là-dedans, puis il l'a toujours été.
Parce qu'Éric Girard avait dit au départ, ben on veut pas qu'il y ait de déficit, donc il va y avoir une subvention qui va être là entre 5 et 7 millions de dollars. Moi, dans ma tête là, de contribuable, je me disais, ben c'est vrai, tu sais, s'ils veulent faire ce genre d'événement-là, on veut pas qu'il y ait de déficit, donc ils vont combler le déficit qu'il va y avoir. Mais là, il n'y en a pas de déficit. L'aréna était plein les 2 jours. Ils ont vendu de la bière, c'est à côté, comme si c'était le Centre Bell à Montréal. Puis là, on rajoute un 5,6. Ça concorde pas avec ce qu'Éric Girard avait dit au départ. Puis là, on nous dit qu'il y a eu des audits pour savoir, bon, combien d'argent est rentré et tout ça. Puis on a ajouté un 5,6. Puis là, Éric Girard se félicite en disant, bon, on est plus proche du 5 millions que du 7 millions. Donc, on a réussi. Mais c'est du grand n'importe quoi, là.
Ben oui, c'est le même gouvernement qui sort l'excuse de la moyenne au BAP pour pouvoir justifier leur mauvais coup. Dans ce cas-ci, à la fin de la journée, l'argent des contribuables n'aurait pas dû être mis dans cet événement-là. C'est dommage. Mais le pire, c'est que même si ça avait été déficitaire, parce que c'était pas mal ça qui était la crainte principale, Justin ne voulait pas assumer la gestion de cet événement-là s'il était pour perdre de l'argent. Puis ça se comprend. Il n'y a pas vraiment d'entreprise qui se lance dans des initiatives perdantes ou qui sont déficitaires d'avance. Sauf que dans ce cas-ci, ben, ils ont été profitables malgré tout. Donc, la subvention aurait dû, à la limite, être retirée à partir du moment qu'on atteint un certain seuil de rentabilité. Mais c'est quand même très dur à prévoir avant que l'événement ait lieu. Fait que l'entente s'est faite malheureusement à huis clos. Je crois pas. En fait, on a fait des demandes d'accès à l'information puis on n'a rien reçu de notre côté. Donc, c'est vraiment des documents qui sont pour l'instant là, pas mal bien scellés. Mais j'espère que j'aimerais ça pour revoir ça au Québec, mais on en a vu plusieurs fois auparavant des événements sportifs qui ont été financés. On se souvient de la PGA à Montréal. Il y a d'autres événements de hockey qui s'en viennent au Québec qui sont également subventionnés. Et à chaque fois, je veux dire, les économistes s'entendent tous pour dire que lancer de l'argent sur des événements de ce type-là, c'est toujours des pertes garanties. Mais au Québec, on écoute la science qu'on veut. Des fois, on écoute la science économique, mais pas à 100%. Et c'est le genre de choses qui arrivent. C'est qu'on pense que subventionner des événements sportifs, ça amène à des résultats intéressants. C'est jamais le cas.
Mais est-ce que de ton vivant, Nicolas, depuis que tu es à la Fédération canadienne des contribuables, tu as déjà vu un gouvernement se remettre en question là-dedans? Parce que j'ai l'impression que c'est évident pour nous. C'est évident pour bien des citoyens, c'est évident pour probablement, Gestev aussi, pour les Kings même, mais ça semble juste pas être évident pour le gouvernement.
Ben effectivement, ça semble pas être évident parce qu'au Québec, on a tendance à prendre pour acquis que le sportif et le culturel viennent de pair et que nécessairement, il faut subventionner les arts et la culture. Ce qui n'est pas nécessairement un mandat contre lequel on a un problème comme tel, mais c'est vraiment comment est-ce que nous, au Québec, on a réussi à mêler les deux et à faire en sorte que dans l'événementiel, le sportif soit subventionné. Ben, je me souviens qu'en Alberta, puis dans le reste du pays, en fait, nous, on demande à ce que le gouvernement fédéral ne mette pas d'argent des contribuables, entre autres dans les matchs de la FIFA qui s'en viennent en Amérique du Nord. Là, comme on sait, le Canada, les États-Unis et le Mexique vont être les pays hôtes des matchs de soccer qui s'en viennent bientôt au Canada et en Amérique du Nord. Et puis dans ce cas-ci, on voit qu'il y a quand même une volonté de la part de certains gouvernements à mettre de l'argent de là-dedans, mais on le fait remarquer constamment quand on regarde l'historique des différents matchs de la FIFA ou des tournois de la FIFA qu'il y a eu à travers le monde. Donc, j'essaie de me rappeler la Coupe du Monde. Pardon, je voulais retrouver le bon mot. Bien, à chaque fois que cet événement-là a eu lieu, ça a été déficitaire. Il y a eu des pertes économiques énormes, ne serait-ce que pour les contribuables. Il y a toujours eu un certain rendement pour les entreprises qui étaient mêlées à ça. Mais à chaque fois, c'est un transfert de richesse vraiment des contribuables à des entreprises privées, essentiellement des subventions qui sont un peu cachées. Et on n'est jamais vraiment gagnant à la fin de la journée quand ça arrive. Donc, que ce soit au Québec ou que ce soit dans le reste du Canada ou que ce soit ailleurs dans le monde, c'est un pari qui n'est jamais gagnant. On l'a vu trop souvent et malheureusement, les gouvernements n'écoutent pas là-dessus.
All right. Dernier sujet. Il reste à peu près 2 minutes. Arjit Sajjan, qui est le ministre de la Sécurité, de ce que je comprends, Sécurité publique, c'est ça, Protection civile du Canada, est allé voir Taylor Swift en concert, puis c'est les Canadiens qui ont payé pour ça.
Oui, bien, il a essayé, finalement. Il y a eu un revirement de situation, puis il a décidé de refuser ses fameux billets de spectacle. Mais oui, Arjit Sajjan, qu'on avait connu dans son premier mandat comme étant le ministre de la Défense nationale du Canada, lui, avait réussi à obtenir des billets pour aller voir Taylor Swift à travers un petit stratagème bien particulier. Dans le fond, il est allé en Colombie-Britannique, puis il a été faire un don de 1 500 $ à une banque alimentaire pour recevoir en cadeau par la suite d'une société d'État qui s'appelle PAVCO, qui est une société d'État qui reçoit autant de l'argent des contribuables de la Colombie-Britannique que des contribuables canadiens. Donc, on est un petit peu concernés là-dedans. Et cette société d'État, elle a décidé de donner, en échange de ce don de 1 500 $ de Arjit Sajjan, une paire de billets pour littéralement aller dans les... j'essaie de me rappeler les boîtes comme telles, là, dans les... pas les coulisses, mais voyons quand on va voir...
Les loges,
les VIP.
Oui, les loges VIP, exactement. Merci pour la correction. Donc, il avait obtenu des billets pour les loges essentiellement et on s'entend que les billets comme tels, la véritable valeur, c'est entre 15 et 23 000 $ Mais lui, il a fait un don de 1 500 $ à une banque alimentaire pour recevoir des billets qui en valaient peut-être pas 10 fois plus, mais quand même beaucoup plus que ce qu'il avait payé. Et ça a fait toute une tollée, en fait, sur les réseaux sociaux. Et essentiellement, les gens se sont mobilisés. Puis je dirais pas qu'on a peut-être joué un rôle, nous, à la Fédération canadienne des contribuables pour vraiment que les gens bombardent sa boîte à courriel. Et ça a été le cas en fin de semaine. Il a fini par refuser, effectivement, sa fameuse paire de billets parce que, comme je vous dis, c'était une sorte de stratagème. En réalité, c'était pas vraiment un don de 1 500 $ qu'il faisait. C'était comme s'il recevait un déductible sur des billets qui valaient beaucoup plus cher et qui étaient payés par les contribuables via une société d'État. Et finalement, il s'est fait pincer. Lui, il pensait que ça allait fonctionner et que la commissaire à l'éthique et tout ça lui donnerait pas mal une passe droite pour que ça puisse se faire. Mais les contribuables l'ont ramené à l'ordre.
Il y a eu de la vertu, Nicolas, juste quand il a fallu l'approuver, là.
Exactement. Il a fait preuve de beaucoup de vertu quand il s'est fait exposer, mais avant ça, disons que c'était bien beau, ça passait comme si rien n'était. Mais ça a été exposé en bonne et due forme par entre autres par Radio-Canada en fin de semaine. Mais d'un autre côté, on a continué à faire la pression sur le ministre pour qu'il refuse sa paire de billets. Ça a l'air niaiseux, mais à la fin de la journée, il faut le rappeler, les politiciens, quand ils vont voir des spectacles, que ce soit Taylor Swift ou le Canadien de Montréal, ne devraient pas faire ça avec l'argent des contribuables.
Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, c'est toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine.
Absolument. À bientôt.
Merci beaucoup. Bye, Nick. Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Vous pouvez le rejoindre puis voir un peu ce que la Fédération canadienne des contribuables fait si vous allez sur contribuable avec un S.ca. On arrête. Boulevard 102.1.